podcast de l'UA. Nos bâtardises, épisode 5, conversation avec Romain Chevalier.
Nous sommes le 16 avril 2025 et je suis partie à la rencontre de Romain Chevalier à Lyon. Nous nous retrouvons à la MSH, la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Étienne, qui occupe une partie des bâtiments de l'ancienne école du service de santé militaire. Du printemps 1943 au 26 mai 1944, date de leur destruction lors d'un bombardement allié, les locaux de l'école de santé ont été occupés par des services du SIPO-SD, plus communément désigné sous le nom de Gestapo. C'est dans la salle, ou peut-être l'une des salles, où le tortionnaire Klaus Barbie, jugé et condamné à Lyon en 1987 pour crime contre l'humanité, dirigeait certains de ces services qui, pour des raisons politiques ou raciales, ont voué des hommes, des femmes et même des enfants aux martyrs. C'est pour perpétuer leur mémoire à la MSH Lyon-Saint-Étienne que le nom de 12 d'entre eux a été donné à des salles où, de nos jours, se transmet et s'échange le savoir. Et nous sommes aujourd'hui dans la salle Janine Sontag. Bonjour Romain, merci de nous accueillir cet après-midi pour cet enregistrement. Est-ce que tu pourrais, avant que nous abordions le cœur de ton travail, nous dire un petit peu où nous sommes et nous décrire en quelques mots cette salle un petit peu particulière.
Bonjour, donc nous sommes dans la salle Janine Sontag, dans la Maison des sciences de l'homme à Lyon. Donc cette salle, si je devais la décrire, elle se situe dans les sous-sols de la Maison des sciences de l'homme. C'est une cave voûtée en pierre apparente. Et ce qui donne une ambiance assez particulière, c'est que c'est un lieu chargé d'histoire, puisque il s'agissait du siège de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un lieu où des interrogatoires de résistants ont pu se dérouler pendant ces années sombres. Cette maison des sciences de l'homme, elle héberge plusieurs laboratoires, dont le SIAM, qui est le laboratoire des études médiévales à Lyon. C'est un laboratoire qui se veut interdisciplinaire, puisqu'il comprend des historiens, des archéologues et des littéraires. Et c'est un laboratoire qui se veut comparatiste également, puisqu'il l'a établi sur les deux rives de la Méditerranée et comprend autant des chercheurs sur les mondes chrétiens que sur les mondes musulmans médiévaux. Ce laboratoire, j'y suis attaché depuis de nombreuses années, puisque j'ai commencé dans mon parcours dans la recherche en master au sein de cette structure. Puis je l'ai poursuivi en doctorat tout en étant rattaché à l'Université d'Avignon et j'en suis désormais chercheur associé.
Tu as évoqué une recherche depuis le master jusqu'au doctorat. Tu as soutenu ta thèse de doctorat en décembre 2023. Pape, roi et bâtard, normes et discours autour de la filiation illégitime, papauté et royaume de France, XIIIe, XIVe siècle. C'était une thèse dirigée par Guido Castelnuovo, professeur à l'Université d'Avignon. Alors derrière ce titre très cadré, très académique, et ce format très, très académique, très structuré de ton parcours de recherche, inscrit dans un laboratoire, une école doctorale, peut-être que tu pourrais nous aider à comprendre ce qui a été à la source de cette recherche, comment se passe la rencontre entre un sujet de recherche et un chercheur.
Ce sujet de recherche, il m'est apparu, l'intérêt m'est apparu en troisième année de licence. C'est une année au cours de laquelle on doit décider de la suite de notre parcours en master et choisir une voie de master qui soit soit professionnalisante, soit un master recherche. Moi, j'ai fait le choix de la recherche. Et ce sujet, il m'a paru comme évident à travers plusieurs expériences que j'ai eues au cours de ma troisième année de licence. Tout d'abord, la lecture de certains travaux, notamment l'historien polonais Bronisław Geremek, qui est un historien connu pour ses travaux sur les marginaux à Paris, notamment sur la pauvreté aussi. Et c'est des travaux qui m'ont percuté, je dirais, au cours de mes lectures, parce que il faisait une histoire par le bas, une histoire aussi des écarts à la norme, une histoire du stigmate aussi, qui pouvait se dérouler tout au long du XIVe siècle. Ces travaux, ensuite, ils m'ont inspiré lorsque j'étais mis face à un exercice académique, l'exercice du commentaire de documents, qui devait être fait sous la forme d'un exposé dans le cadre d'un TD de L3. Et c'était un document assez classique, un extrait des chroniques de Froissart, donc grand chroniqueur du XIVe siècle. Et cet extrait des chroniques de Froissart, il s'intéressait au parcours d'un routier, un routier du nom de Basco de Mauléon. Un routier, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une forme de mercenariat, un soldat professionnel qui sont souvent rassemblés sous forme de compagnie et qui vont vendre leurs services aux plus offrants dans le contexte des troubles de la guerre de Cent Ans. Et dans ce document que j'avais étudié, Froissart nous expliquait que ces routiers, lorsqu'ils n'étaient pas engagés auprès d'un souverain, ils continuent de faire la guerre pour leur propre compte, notamment par des pillages. Et le parcours du Basco de Mauléon, il passe par une compagnie de routiers qui pille une région en particulier, le comtat venaissin. Et au cours de ces pillages, le pape et les cardinaux font le choix de payer une rançon à cette compagnie de routiers pour les faire partir, pour leur demander de partir. Donc il y a un extrait en particulier qui m'avait amené à m'intéresser à la bâtardise. C'est l'extrait qui désigne ce moment où le pape et les cardinaux payent, versent une rançon à cette compagnie de routiers. Donc je vais lire cette petite phrase qui est assez courte. Parmi 60 000 francs que le pape et les cardinaux payèrent à plusieurs capitaines de ces routes, tels que Messire Jean Accoude, un moult vaillant chevalier anglois, Messire Robert Briquet, Carsuel, Nodon de Bageran, le bourg de Breteuil, le bourg Camus, le bourg de l'Espard, Batillé et plusieurs autres, six s'en allèrent en Lombardie et rendirent le pont Saint-Esprit et emmenèrent de toutes les routes bien les six parts. Donc dans cette phrase, avec une énumération de noms dont Froissart a le secret, ce qui m'avait frappé, c'est que trois de ces noms sont précédés de la mention de Bourg. Bourg de Breteuil, Bourg Camus, Bourg de l'Espard. Après des recherches rapides sur l'origine de ce terme et la signification de ce terme, je me suis rendu compte que c'était une mention de la filiation illégitime de ces personnages. J'ai dû m'intéresser donc à ces personnages pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient dans une compagnie de routiers, et je me suis aperçu que c'était des parcours assez alambiqués et où la bâtardise avait un intérêt assez fort, puisque ce sont des personnages issus de la noblesse, mais qui, face à l'absence de perspective au sein de leur groupe familial, en raison de leur bâtardise, allaient s'engager dans des compagnies de routiers qui les portaient à l'aventure et à l'éloignement de leur famille pour accéder à une forme d'intégration sociale. Donc c'est à travers ça que j'ai pu m'intéresser à la bâtardise et à l'intérêt que ça pouvait être dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Donc ces parcours aventuriers de routiers qui étaient marqués par la bâtardise, ils m'ont intéressé aussi parce que j'ai pu observer que plusieurs de ces routiers, à un moment de leur parcours, obtenaient des lettres de légitimation. Ces lettres de légitimation, j'ai pu constater qu'elles étaient, que c'était un acte royal qui était délivré à ces bâtards, et qui leur donnait certains droits qui leur étaient normalement refusés. J'ai fait donc le choix de m'intéresser à ce type d'acte en master. J'ai aussi opté pour une période particulière pour étudier ce type d'acte, à savoir le règne de Charles VII. Mon ambition, c'était d'étudier la marginalité dans un contexte de crise. Le règne de Charles VII, donc qui s'étend de 1422 à 1461, est un règne particulier puisqu'il commence par une crise grave, puisque Charles VII est déshérité de son royaume par son propre père, et la couronne est attribuée au roi d'Angleterre par le traité de Troyes. Et Charles VII doit donc ensuite faire la reconquête de son royaume, avec des épisodes fameux, notamment l'épopée de Jeanne d'Arc. Mais c'est tout au long de son règne qu'il y a des troubles récurrents. Et dans ce contexte de crise, la position des bâtards me paraissait particulière. Et les lettres de légitimation, elles permettaient d'étudier cette spécificité. Donc j'ai pu avoir accès à une étude sérielle, un corpus cohérent, puisque ces lettres de légitimation, elles étaient conservées dans ce qu'on appelle les registres du Trésor des Chartes, qui est un petit peu la série de sources canonique de la royauté. C'est là où sont conservés les actes les plus importants du pouvoir royal, et c'est cette série d'actes dans lesquels on pouvait trouver des légitimations. J'en ai trouvé 153, et à travers ces lettres de légitimation, j'ai pu découvrir toute une série de parcours de bâtards qui, à un moment donné de leur existence, faisaient un recours au roi et lui demandaient d'avoir accès à un acte de grâce qui leur permettait de dépasser leurs conditions de bâtard, et qui leur permettait notamment deux choses majeures. C'est la succession, d'avoir accès à la succession de leurs parents, et puis aussi de pouvoir eux-mêmes transmettre leur patrimoine sans entrave. Et ça m'a permis de mieux comprendre la condition de bâtard dans le domaine temporel, et c'était une condition qui était marquée par ces entraves juridiques, des entraves qui les excluaient de toute possibilité d'être totalement intégrés à une famille. Donc les lettres de légitimation, elles ont un but d'intégration au cœur des familles de la fin du Moyen-Âge, et à ce titre, elles m'ont particulièrement intéressé. Par contre, je me suis rendu compte que c'était une série de sources qui était très standardisée, avec un langage qui se répétait de source en source, un formulaire qui était très rigide et qui se reproduisait tout au long des 153 actes que j'avais sous les yeux. Donc je me suis rendu compte que pour comprendre les enjeux derrière le pouvoir de légitimer, il fallait peut-être revenir en arrière, essayer de dépasser ce formulaire et donc d'essayer de remonter au siècle précédent pour voir comment ce pouvoir s'était formé et pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe au-delà de la routine administrative, du langage très formel, très aseptisé des lettres de légitimation du 15e siècle. Donc c'est pour cela qu'en thèse, j'ai fait le choix, après plusieurs détours, de revenir au siècle précédent et aux origines du droit de légitimer les bâtards.
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent, je suis accueilli par la MIF comme Lee Welling à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère, subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards, pour chasser comme les albis jouant en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres, j'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards, un stylo, un style de barbare, pour mettre en musique des rimes de bâtard. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. Nous on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des raturés, des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vies brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclairs s'il y en a pas une seule par journée. Pour que la chance ne tarde plus, je veux pas être un bâtard de plus.